La RDC enregistre moins de 5% du taux de pénétration ou d'accès à l'électricité, autrement dit 4% d'indicateurs de développement durable. Or, notre pays regorge énormément de potentiel, simplement en matière d'hydroélectricité, plus de 210 gigawatts. Et malheureusement, c'est moins de 8% de la population qui accède à cette denrée rare. Cela intrigue. Pourquoi ? Comment résoudre ce problème ? Droit et citoyenneté parlent aujourd'hui du droit d'accès à l'électricité. Jeff Ngoyi Mulonda Cardone est présente ce magazine. Bienvenue à tous. Droit et citoyenneté se penche aujourd'hui sur le droit d'accès à l'électricité dans notre pays. Cette denrée est rare et même inexistante dans certains coins du pays, notamment dans les milieux ruraux. Dans la capitale, il y a des zones, il y a des quartiers où la population n'arrive pas à avoir l'électricité. Et ceux qui en ont, c'est avec des coupures intempestives, des chutes, des tensions à tout moment. Conséquence, des appareils qui s'abîment. Le droit des consommateurs, des abonnés ne sont pas respectés. Pour parler de cette thématique, nous recevons un des consommateurs de l'électricité.
Merci beaucoup. Je suis Bernard Ndaye. Je suis enseignant. Je suis professeur à l'ISTA Kinshasa. D'abord, monsieur le journaliste, d'une manière générale, je préfère parler du taux de pénétration au lieu de parler du taux d'accès puisque le taux de pénétration, c'est un indicateur de développement durable dans le secteur de l'énergie. Dans le mix énergétique national, le taux de pénétration de l'électricité est inférieur à 5%. Donc ça signifie que c'est un taux parmi les plus faibles au monde, malgré toutes les ressources.
Donc 5% sur toute l'étendue du territoire national.
Oui, c'est le taux de pénétration. Donc dans l'ensemble de ce que le pays consomme, toutes les sources énergétiques, ensemble, l'électricité n'a qu'une part d'environ 4%.
Donc qu'est-ce que vous entendez par le taux de pénétration?
C'est un indicateur de développement durable qui montre la part de l'énergie électrique dans le mix énergétique national, c'est-à-dire toutes les ressources énergétiques ensemble. Il y a la biomasse, vous savez que c'est la biomasse qui a le taux de pénétration le plus élevé.
C'est quoi la biomasse?
La biomasse, c'est tout ce qui est dégradable, biodégradable, des déchets biodégradables qui peuvent être prélevés de la forêt. Du bois, par exemple, c'est de la biomasse. Des déchets végétaux divers qui peuvent provenir de l'agriculture. Et tout ce qui est utilisé, qui est biodégradable, comme certains déchets urbains qui peuvent être utilisés pour des besoins énergétiques. C'est la part la plus élevée, c'est bien sûr la biomasse. Il y a le pétrole dans son ensemble qui prend aussi une part non négligeable. Donc voilà un peu le tableau sombre en ce qui concerne l'accès ou le taux de pénétration de l'électricité dans le mix énergétique national.
Et vous êtes dans ce secteur, selon vous, quelle peut être la solution durable à ces problèmes? Comment peut-on résoudre cette problématique?
Oui, vous savez, l'électricité, c'est un peu comme l'histoire de l'œuf et de la poule. C'est-à-dire, d'abord, l'électricité ou l'énergie d'une façon globale, c'est le moteur de développement. Aucun secteur ne peut se développer sans l'apport considérable de l'énergie. Et aussi, pour qu'on ait suffisamment d'énergie, il faut que les autres secteurs se développent. Voilà pourquoi je dis que c'est comme l'histoire de l'œuf et de la poule qui se disputent pour dire, bon, moi l'œuf, sans moi l'œuf, toi la poule, tu ne serais pas là. Et la poule dit, sans moi la poule, toi l'œuf, tu ne serais pas là. Donc, ce qui manque au pays, c'est d'abord un cadre de très bonne gouvernance, notamment les politiques énergétiques qui manquent. Le pays, depuis son existence, n'a jamais élaboré des politiques énergétiques. Il y a ce problème, aujourd'hui, marche de pair avec la modélisation énergétique. C'est-à-dire, pour élaborer des politiques énergétiques, il faut que le pays élabore ou passe par la modélisation énergétique pour élaborer un plan de développement qui tient compte de l'évolution de tous les autres secteurs économiques, donc de la vie effectivement, ça pourrait orienter facilement l'élaboration des plans énergétiques. Donc il faut planifier, pour être bref, recourir plutôt aux plans élaborés pour améliorer la gouvernance en montant des stratégies de mise en œuvre du plan. Et ces stratégies, c'est ça ce que nous appelons des politiques énergétiques.
Malgré toutes les grandes conférences, les grands forums qu'on a hier organisés, qu'on organise toujours dans ces pays, dans ce secteur, ces pays manquent un plan stratégique politique d'électricité.
Oui, le pays essaie de négliger. Vous savez, la question de la modélisation énergétique, c'est une question très négligée, surtout par les pays en développement. Jadis, des solutions liées à la construction, par exemple, de centrales électriques, c'était des questions assez aisées, d'autant plus qu'il y avait peut-être deux sources ou trois sources qui prédominaient, c'est-à-dire les fossiles, l'hydroélectricité. Mais aujourd'hui, avec la problématique du changement climatique, il y a lieu de penser à un mix énergétique où les énergies renouvelables prennent une part importante. Voilà pourquoi il est plutôt important d'élaborer des plans, des stratégies, voir d'où on vient, où est-ce qu'on va, en privilégiant bien sûr l'utilisation des ressources énergétiques locales que le pays dispose en abondance. Donc c'est ça le problème. Et ce problème ne peut être résolu, puisque le problème d'accès à l'énergie doit aussi marcher de pair avec l'évolution économique du pays. Si vous faites par exemple la nationale partant de Boma jusqu'à Kinshasa, il y a certains villages qui sont électrifiés, mais ces villages ont de l'électricité. Qu'est-ce qu'ils en font? Sur le plan développement, vous sentez au contraire une pauvreté aiguë. Tout ça, c'est puisque on n'a pas pris en compte un plan de développement où ces villages ont aussi des facilités d'accès à certains capitaux pour développer aussi l'entrepreneuriat local. Donc l'accès à l'énergie, oui, avoir l'accès à l'énergie, mais il faut monter aussi des stratégies de développement pour que les démarches de pair. Sinon, on continuera à faire du surplace.
Voilà. Merci, professeur.
Merci.
Nous parlons du droit d'accès à l'électricité. Vous avez préféré utiliser le terme pénétration.
Merci.
Radio Okapi.
Radio Okapi.
Droit et citoyenneté.
Droit
et citoyenneté.
L'émission pédagogique Droit et citoyenneté se penche aujourd'hui sur le droit d'accès à l'électricité. Et prochainement, nous parlerons du droit d'accès aussi à l'eau. Les gens n'ont plus accès à l'électricité, soit ils en ont. Ce sont des chutes intempestives qui occasionnent des pannes, des appareils. On en souffre sérieusement. Comment résoudre ces problèmes? Voilà, aujourd'hui, AfriWatch et Corap, une conférence débat autour de la problématique et ça tombe à pic.
Merci beaucoup, Monsieur Jeff, pour la petite présentation. Moi, je suis Emmanuel Moussouyou. Je suis le secrétaire technique de la Corap et la Corap qui est la coalition des ONG pour le suivi des réformes et de l'action publique. Le rôle de Corap aujourd'hui est celui de faire un monitoring des différentes réformes qui sont engagées au niveau du pays, voire même des actions publiques. Et parmi ces réformes, il faut noter que nous sommes très engagés dans le secteur d'électricité, à travers laquelle nous avons lancé une campagne depuis 2016. Nous sommes sur cette campagne.
Et on n'en sait pas trop sur cette campagne.
Voilà, donc c'est pourquoi on en parle. Donc nous avons lancé une campagne dénommée Accès pour tous à l'énergie. C'est ça notre but. Pourquoi Accès pour tous à l'énergie? Parce que le potentiel qu'a la RDC doit permettre que tout Congolais et partout où il se trouvera d'avoir accès à l'électricité. Ce potentiel peut même aller au-delà pour permettre à ce que des pays étrangers en Afrique puissent avoir accès comme en Europe ou en Occident. Mais malheureusement, il y a un contraste remarqué, raison pour laquelle nous avons lancé cette campagne. Et aujourd'hui, dans le souci de rendre plus visible au fait cette problématique, nous, Corap, qui est une coalition d'ONG, AfriWatch, qui est une organisation membre de Corap et partenaire, nous avons, n'est-ce pas, jugé bon de créer ce débat, parce qu'on voudrait arriver à créer un débat public autour de l'accès pour tous à l'énergie. C'est comme l'année passée, on a lancé une activité, plus ou moins une sous-campagne dans la campagne Accès pour tous à l'électricité, qu'on a appelée Tolembi Molili. Le but, c'est que la population qui souffre, qui constate ces impacts ou qui vivent ces impacts directs, puisse prendre conscience que l'accès à l'énergie, c'est d'abord un droit reconnu par la Constitution, au-delà de toute chose,
Et parce que c'est un droit, c'est-à-dire que le gouvernement doit tout faire pour résoudre ce problème d'accès. Alors que nous sommes en train de vivre dans le noir tous les jours. Donc le but pour nous, c'est vraiment de créer ce débat de société pour que l'on comprenne que, avec les ressources que nous avons, on n'a plus le droit de se plaindre. On n'a plus le droit, n'est-ce pas, de manquer de l'électricité, parce que c'est possible de donner à toute la RDC, à l'Afrique et même au monde de l'énergie provenant du potentiel hydroélectricité et même solaire en termes des énergies renouvelables. Exactement aujourd'hui, nous avons publié un rapport qu'on a appelé une note de plaidoyer sur l'accès pour tous à l'énergie. Une note de plaidoyer qui vise les autorités de la RDC. Et cette note de plaidoyer prend de cas pratiques comme le cas de Inga dans le Congo central, qui a un grand projet mais qui ne pourra pas forcément résoudre le problème d'électricité. Donc cette note-là est en train de présenter les deux systèmes d'électrification qui existent, qui sont prévus par nos lois, par la Constitution et la loi de l'électricité. D'une part, il y a un système centralisé et d'autre part, il y a un système décentralisé. Et les grands projets comme Inga entrent dans la catégorie de projets centralisés où tout est géré au niveau national. Et c'est des lignes de transmission qui passent sur les toits des communautés alors qu'il y a la pauvreté, voire la pauvreté économique et même énergétique dans nos communautés. Et nous avons parlé du système décentralisé qui est plutôt un système favorable pour développer le secteur énergétique en RDC. Nous estimons que pour booster l'accès pour tous à l'énergie, pour booster le développement économique à la base, il faudrait mettre en avant-plan, n'est-ce pas, ce système décentralisé. Parce que le président de la République l'a mentionné dans son discours le 30 juin passé. Il a clairement dit que la RDC a plus de 800 sites hydroélectriques répartis sur l'ensemble du pays. Et comprenez que 800 sites, ce ne sont pas des sites à minimiser. C'est beaucoup d'énergie qui pourront être développées à moins de temps et à très peu de moyens. Et donc, c'est ça principalement que ce sur quoi, en fait, la note penche. Et au-delà de la question du système qui doit être centralisé ou décentralisé, on a donné quelques propositions d'alternatives sur lesquelles le gouvernement devra prioriser sa politique. La politique ne doit pas être priorisée sur de grands systèmes, mais la politique doit être priorisée sur des alternatives comme, n'est-ce pas, mettre l'accent sur le développement des barrages à petite échelle, des petites centrales. Ça, c'est une solution durable pour la RDC. Développer les autres formes d'énergie solaire et d'énergie renouvelable comme le solaire. Le solaire aujourd'hui, alors que dans le monde, il est prouvé que le solaire est devenu parmi les énergies les plus moins chères, mais en RDC, ça coûte encore cher. C'est-à-dire que la politique doit prioriser comment est-ce qu'on doit étendre le développement, n'est-ce pas, de ces sources d'énergie qui sont plutôt moins chères et qui sont abordables. Imaginez, avec le solaire, dans moins d'une année, on peut avoir une centrale de 1000 MW. Le président de la République avait posé la première pierre et on attend que ça arrive. Alors que 1000 MW pour une centrale, un barrage hydroélectricité, parce que déjà ça entre dans la catégorie des grands barrages, donc pour 1000 MW, il faut attendre 5 ans, il faut attendre 6 ans, 7 ans et peut-être plus.
Mais pourquoi le problème reste récurrent alors que le pays dispose de toutes les compétences, de toutes les capacités énergétiques, ou vantait des barrages qu'on a, mais l'accès à l'électricité pose toujours problème. D'abord, quelle est la cause et la solution durable à ces problèmes?
Merci beaucoup. Peut-être avant que je ne réponde à la question du pourquoi, je voulais peut-être clôturer mes propos d'avant. Je voulais dire justement, en dehors de la note de plaidoyer, qui mettait beaucoup plus l'accent sur les éléments que je venais d'évoquer, nous avons aussi parlé d'un projet comme un cas, c'est-à-dire le projet Boussan, un projet qui privilégie les miniers. C'est dans le Lualaba. On veut construire une centrale de plus ou moins 240-250 MW dans le Lualaba.
Juste pour alimenter
la Sissi commune. Et le reste d'énergie, on ne sait pas qui va le consommer parce que c'est prévu que l'Asico Hydro puisse en fait exploiter cette énergie et l'orienter. Alors que les communautés, déjà, ils sont délocalisés de façon brutale. Chose qui est contraire à la loi. Et au-delà de la délocalisation, c'est eux qui subissent les impacts directs. Mais comment est-ce qu'ils ne sont nullement prévus quelque part où ils doivent bénéficier de l'énergie? Donc vous comprenez que c'est un problème. Et donc, je voulais revenir à votre question.
au-delà du problème de Busanga, de Inga et autres, qui sont de projets grands, mais sans impact direct sur les populations, surtout en termes d'accès à l'électricité. Pourquoi, en dépit des ressources, la RDC ne développe toujours pas son secteur? Justement, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes, mais principalement ici, moi, je voudrais marquer le problème de politique énergétique. Imaginez aujourd'hui que la RDC, ça fait plusieurs années qu'elle n'a pas de politique énergétique. Le projet de document de politique qui devait être validé en 2009 a été même rejeté, n'a pas été validé. C'est un projet de 2009. 2009-2021, c'est plus de 10 ans aujourd'hui. Donc, alors, comment est-ce qu'on veut développer un secteur alors qu'on n'a pas de politique? Et c'est quoi le rôle d'une politique? La politique, elle vient donner des grandes orientations sur la vision qu'on doit avoir pour le secteur sur un certain nombre d'actes. Aujourd'hui, on peut se dire, d'ici 2030, voilà ce que nous prenons comme grandes options, comme grandes orientations pour le secteur de l'électricité. Par exemple, nous allons développer le solaire. Nous allons renforcer l'accès des communautés ou des populations à l'énergie par rapport à l'industrie. Nous allons trouver des solutions durables pour résoudre le problème des impacts environnementaux, par exemple, liés aux énergies. Oui, nous allons mettre l'accent sur le développement économique au niveau local à partir des projets décentralisés. Nous allons acter sur... C'est des idées que je suis en train d'avancer, mais pour dire que une politique énergétique a pour rôle de donner des grandes orientations qui viendront être exprimées au fait à travers des lois spécifiques et des stratégies pour pousser le développement d'un secteur. Mais ici, nous avons un sérieux problème, il n'y a pas de politique, et la conséquence c'est que parce qu'il n'y a pas de politique, les choses vont dans tous les sens. C'est un partenaire qui a des moyens, qui dit que voilà, moi j'ai fait Inga, qui va bousculer le gouvernement, et le gouvernement suit ce partenaire-là. C'est quand les Chinois, à travers la Sicomine, qui diront que moi je vais Boussanga, en dépit de tout ce que ça pourrait avoir comme impact, et le gouvernement suit. C'est quand les Chinois, avec Exim Bank, vont dire, voilà, moi je vais Zongo, et on suit. Alors que Zongo, par exemple, c'est un projet qui a été inauguré depuis plusieurs années maintenant, mais qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de ligne de transmission. Mal planifié. Katende, mal planifié. Kakobola, mal planifié. Donc, c'est un problème de politique que suivra le problème de planification énergétique. Ça aussi, c'est un sérieux problème. Et finalement, un problème de modélisation.
Nous recevons Emmanuel Moussoui de la CORAP AfriWatch à travers Droit et Citoyenneté qui se penche sur le droit d'accès à l'électricité. Et en définitive, Emmanuel Moussoui, vous avez évoqué l'absence d'une politique générale en matière énergétique, mais que peut-être ce plan que vous proposez? Puisque ce plan n'existe pas, vous avez quand même un plan.
Il y a deux niveaux de réflexion à ce stade. Il y a un niveau planification que j'ai mentionné autour de la politique énergétique, mais aussi il y a un autre niveau gestion des entreprises publiques. La gestion de la SNEL, qui est à ce jour la principale entreprise qui gère le secteur de l'électricité. Ok, donc par rapport à ça, il y a un problème, il faut qu'on améliore la gouvernance. Vous savez que la SNEL, bien que ce qu'on peut se dire, elle perçoit beaucoup de fonds. Des miniers par exemple qui sont clients, des populations. C'est vrai qu'il y a des secours où la population ne veut plus payer à cause du fait que l'énergie n'est plus régulière ou je ne sais pas quoi. Mais la SNEL perçoit beaucoup d'argent. Mais comment ces fonds sont gérés? C'est quoi les politiques de réforme qui sont mises en place au niveau de la SNEL? Comment les choses sont planifiées à long terme en termes de maintenance et de toutes ces questions-là autour? Oui, donc il y a ce problème-là. Il faut qu'on arrive à améliorer la gouvernance des entreprises qui arrivent dans le secteur, la gouvernance du ministère de l'énergie, la gouvernance du secteur dans sa globalité. À travers la libéralisation de la loi 2014, hein, la loi de 2014 a favorisé une libéralisation du secteur de l'électricité. Mais cette libéralisation ne fonctionne pas encore très bien. C'est à peine quelques mois qu'on a vu la nomination des animateurs à la tête de l'ANSER et de l'ARE. Mais il faut que ces animateurs et toutes les mesures qui sont mises en place puissent arriver à booster effectivement le système décentralisé. S'il y a des investissements à moins de 3 ans, parce qu'une centrale, j'ai vu le cas de Matébé qui a produit 13 MW, n'a pas fait 3 ans. Et avec une affaire de 300 quelque chose, 1000 dollars, la centrale existe. En moins de 3 ans, 2 ans et demi, on a une centrale. Oui, donc c'est-à-dire que la solution pour nous, au-delà de la politique, c'est, n'est-ce pas, la formalisation du système décentralisé qui favorise des investissements. Et ça va booster très rapidement le développement du secteur de l'électricité. La loi a été promulguée en 2014, mais il existe un problème de mesures d'application. C'est vrai, les mesures, certaines sont là, mais l'applicabilité de ces mesures. Est-ce que la politique fiscale est attrayante pour que les investisseurs viennent? Est-ce que, j'ai parlé du solaire, c'est quoi les mesures qui sont prises par rapport au solaire? Et c'est tout ça que nous estimons que si le gouvernement met beaucoup d'efforts ou se permet de beaucoup travailler sur ça, cela permettra donc, n'est-ce pas, de voir dans un bref délai des améliorations par rapport à l'accès pour tous à l'électricité. C'est comme ça qu'une campagne à partir de Kinshasa qui va toucher toute la République, tous les Mimolili. Au Katanga, on va dire Tunachoka. Et ailleurs, dans le Congo central, dans le Kasaï. Et ça, c'est un message qu'on lance aux autorités, parce que vraiment, ce n'est plus acceptable que l'on continue à vivre cette situation alors qu'on a des moyens pour les résoudre.
Je m'appelle Emmanuel Kumpula, je suis le directeur exécutif de l'Observatoire africain des ressources naturelles.
Pourquoi on ne peut même pas envisager d'autres choses, des alternatives pour sortir de cette impasse?
Je pense que le problème se situe au niveau du gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui doit concevoir la politique énergétique du pays. Je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation au niveau de l'État à prendre des décisions en termes de quel type d'énergie nous voulons avoir. Est-ce que, par exemple, nous voulons l'hydro? Et l'hydro, c'est quelle taille?
Et selon vous, quel type d'énergie faut-il avoir?
Oui, en fait, dans un pays comme la RDC, moi, je suis de ceux qui pensent, par exemple, si nous optons pour l'hydro, bien sûr, on peut prendre les solaires et les autres. Et si nous optons pour l'hydro, on a deux possibilités. Première possibilité, on a l'alimentation qui est décentralisée. Ça signifie que vous avez des gros barrages comme Inga et tout ça. Mais avec ça, c'est des projets qui prennent beaucoup de temps pour les mettre en place. Et même dans ces cas-là, c'est des projets qui sont beaucoup plus orientés vers la consommation extérieure que la consommation interne. À côté de ça, on devait avoir des structures centralisé, décentralisé signifie on a, c'est par exemple des petits barrages qui sont disséminés dans des provinces et qui règlent des problèmes particuliers des communautés au niveau de chaque entité. Par contre, centralisé, c'est vous avez comme Inga, qui est un grand barrage, qui vous devez organiser les transports de l'énergie du lieu de production vers les lieux de consommation. Et c'est des projets qui demandent beaucoup d'années de développement, beaucoup de moyens à mettre en place. Alors que les projets décentralisés demandent peut-être peu de moyens. Et en termes de temps, pour les mettre en place, ça demande moins de temps. Ça signifie que vous pouvez avoir un projet, un barrage, ça dépend de combien de mégawatts vous voulez, à moins à peu près 2 ans, vous pouvez en avoir. Alors que si vous voulez un grand barrage centralisé comme Inga, il vous faut 10 ans, il vous faut beaucoup d'argent. C'est vrai que la question des coûts, c'est une question qui doit être revue, qui doit être débattue, parce qu'on a vu qu'il y avait d'autres développeurs qui sont venus avec des propositions beaucoup plus attrayantes en termes de coûts, n'est-ce pas? Et donc, je pense que le vrai problème se situe au niveau de l'État, qui doit déterminer quel type d'énergie il faut donner, mais aussi prendre la question de l'énergie comme une question urgente.
Suivons à présent la réaction de la SNEL avec un de ses cadres qui a requis l'anonymat.
Ceux qui ont causé cette difficulté, c'est la population lui-même. Je peux vous donner un exemple. Aujourd'hui, la SNEL produit le courant. Le problème qui est là, c'est quoi? Au niveau de la distribution, on donne exemple 10 mégawatts pour un quartier. Exemple, avec nos cabines à ciel ouvert, il y a la capacité par exemple de 20 000 kV. Mais dans des quartiers, ils ont maintenant la charge, pour le moment, beaucoup des quartiers. Les charges ou bien la charge qu'ils avaient auparavant, ce n'est plus la même charge. Sur des avenues, vous allez trouver par exemple, sur une avenue, il y avait par exemple 20 parcelles. Aujourd'hui, vous allez vous retrouver avec 60 parcelles. Il y a les, par exemple, avenue Louvrungi, Louvrungi numéro 1, A, B, on a morcelé des parcelles. Et on construit, ça a même signalé la SNEL. Et celui qui a construit, celui qui a acheté ces demi-parcelles-là, il ne va même pas signaler la SNEL. Il le construit directement et il y a le phénomène-là de raccordement frauduleux. Et il se branche avec, il y a des badauds qui passent, hein, parce qu'on appelle tout le monde ingénieur dans des quartiers. Des petits, viens, tu me branches ici, je te donne un $20 sans consulter la SNEL. Prévenez que si vous passez même dans des parcelles, dans des avenues, vous demandez, est-ce que papa peut voir votre devis de raccordement, il n'y a pas. Mais il a du courant. Et toutes ces charges-là, on se retrouve maintenant avec une cabine de 20 000 kV et il se retrouve, la cabine se retrouve maintenant avec une charge de 35 000, 46 000 kV. Qu'est-ce qu'on va faire? Même vous qui êtes là, vous pesez par exemple 80 kg et on vous donne des marchandises qui pèsent 260 kg. Vous allez faire quoi? Vous allez prendre 30, 20 et jusqu'au moment où vous allez terminer cette charge.
Si je vous ai bien compris, vous avez relevé au moins deux raisons qui justifient cette faiblesse en électricité. Il y a la densité démographique, il y a aussi le problème des raccordements fraudulés. Mais pourquoi la SNEL ne peut pas s'adapter à cette nouvelle donne, puisqu'il y a eu une nouvelle évolution, pour augmenter aussi sa capacité en électricité?
Oui, normalement, la SNEL est en train de s'adapter. La SNEL s'adapte aujourd'hui, et même le système des compteurs prépayés.
C'est pas tout le monde qui a ses compteurs prépayés.
Mais bien sûr, je sais que c'est pas tout le monde. Parce que le problème qui est là, c'est quoi? Il y a d'autres quartiers. Bon, des quartiers, exemple, comme des quartiers là où il y a des quartiers populaires. Ce sont des gens qui sont vraiment des incontrôlés. Vous pouvez même placer ces compteurs prépayés là. Et ils bypassent. Ils mettent le courant direct. Et vous attendez qu'ils viennent payer? Non. 3 mois, 4 mois. Oh, mais comment ce monsieur, depuis qu'il avait payé 20 kilowatts, il ne rêvait pas pour payer pour pour s'abonner encore. Oh, il a déjà fait, il a déjà bypassé. Le problème qui est là, c'est quoi? D'abord, le problème que connaît la SNEL aujourd'hui, d'abord, c'est la population lui-même. Entre même dans des maisons, normalement dans un pays qui se respecte, si vous ajoutez un appareil électroménager, vous devez signaler à la société. Si nous passons dans des maisons, exemple dans d'autres parcelles, vous avez trouvé derrière la parcelle, il y a des boulangeries pirates. Il y a des boulangeries, ils produisent des pains. Et calmement, ils sont à l'aise. Or, les fours là, quand les fours chauffent, les fours rendent du courant en chaleur.
L'électricité de la SNEL est mal utilisée par ses consommateurs. C'est ça le problème.
Bien sûr. Vraiment, pour corriger ça, moi je pense, ça demande des moyens.
Mais il y a d'autres coins où il n'y a pas d'électricité. Les gens peuvent vivre une année sans le courant. Il y a des coins où il n'y a jamais eu, en tout cas, un éclairage, il n'y a jamais eu une seule ampoule allumée. Là, ce n'est pas aussi un problème de mauvaise utilisation de l'électricité.
Non, dire qu'ici à Kinshasa, il y a des coins qui connaissent une coupure d'une année, je ne pense pas. Mais est-il que, si vous dites qu'il y a quand même des laissages, là, ça peut se comprendre. Parce que la SNEL fait un effort de donner du courant à tout le monde. Est-il que dans d'autres quartiers, on a un problème sérieux des câbles? Parce qu'eux-mêmes volent aussi des câbles. Dans d'autres quartiers, des câbles aériens comme ça, et ils viennent, ils enlèvent. Allez-y comprendre. Aujourd'hui, la SNEL donne des câbles pour remplacer. Après des jours, et on vient, on vole. La société va aussi se décourager. C'est ça le problème. Quant à moi, exemple d'éclairage public sur poids lourd ici. Devant la police, on a mis l'éclairage public avec des fils nus. Mais on a volé ces fils pendant la nuit. Là où il y a la police, on va dire quoi? Et la police aussi doit aussi sécuriser les biens de l'État. Parce que la SNEL, c'est une société de l'État.
C'est par ici que nous mettons un point final à cette émission de droit et citoyenneté qui s'est penchée sur le droit d'accès à l'électricité. Nous recevions Emmanuel Moussouy de la CORAP, Emmanuel Umpula de la FreeWatch et Bernard Ndaye, professeur à l'ISTA, qui nous ont tous entretenus sur la problématique d'accès de tous à l'électricité en RDC, cause et solution. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre et à la prochaine.